Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Chers frères et sœurs, depuis mercredi, l'Église est entrée en carême. Une retraite de 40 jours pour se préparer aux fêtes pascales. Et tout au long de ce jour, la parole de Dieu ne cessera de nous guider. Découvrons celle qui nous est donnée pour ce deuxième dimanche. Nous verrons d'abord ce qu'est le désert dans un premier point, dans un second, combien le combat est celui de toujours. Nous verrons quelques traits des combats d'actualité et nous conclurons. Bien oui, qu'est-ce que le désert ? Jésus vient de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, nous dit saint Luc, et rempli de l'Esprit-Saint, il est conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il est tenté par le diable. Le désert, un lieu hors du temps, un lieu aride, où l'homme, dépouillé de ses défenses habituelles, affronte les forces hostiles, connaît l'épreuve, expérimente son incapacité de triompher de l'adversité. Un lieu où, finalement, l'homme est contraint de s'en remettre à la toute-puissance de Dieu et à sa miséricorde. Ainsi en est-il pour Abraham, Moïse et les prophètes. Ainsi en est-il du peuple élu. Et tous connurent la faim, la soif, la guerre. C'est donc dans ce désert que Jésus s'enfonce, conduit par l'Esprit. Et ce que nous confirme l'Évangile, c'est que dans ce désert, Jésus, le Verbe, est éprouvé en tout, assumant selon la vérité de l'incarnation notre condition humaine et donc aussi la tentation qui inévitablement traverse toute vie d'homme. Le désert, un combat. Oui, un combat vieux comme le monde, celui que Jésus vient vivre. Ouvrons la Bible, dès les premières pages, il est question de nourriture. Comme il est beau à voir le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Un fruit qui ne tarde pas à révéler une volonté de puissance, transgression du commandement. Cet ignoble péché d'orgueil des origines perpétré en Adam. Oui, un combat contre l'ennemi sans cesse et toujours recommencé. C'était dans le désert, souvenez-vous, quand le peuple élu récrimine contre Dieu, il a faim. Mais à peine sont-ils rassasiés de la manne, prémisse du pain de vie, que déjà ils se prosternent devant un veau d'or pour l'adorer. Épreuve de la faim, épreuve de la solitude, épreuve physique, épreuve morale, tentation du désespoir. Il en manquait encore une, peut-être plus terrible à vivre, l'épreuve de la soif. Et Dieu, dans sa pitié pour ce peuple, pourtant si capricieux, ingrat et rebelle, fait jaillir l'eau du rocher de Massa, prémisse de la source qui étanche toute soif. Frères et sœurs, que nous disent ces tentations, celles de nos pères, celles des Hébreux, celles de Jésus ? que l'adversaire est encore et toujours à l'épreuve avec sa panoplie de mirages. Voyons justement comment ce combat est d'actualité. Mirage d'une recherche effrénée de consommation au détriment de la parole qui donne mesure et sens à toute chose. Mirage d'une recherche sans fin de pouvoir dominateur avec son cortège d'esclaves et de torturés au détriment du service des plus petits et de l'adoration du seul Dieu. Mirage de tous les paraîtres, ceux de la science divinisée, de la technique idolâtrée, ceux d'une culture qui prétend pouvoir tout connaître, qui nie Dieu et qui pourtant l'accuse lorsque l'événement échappe à sa maîtrise. Et que répond Dieu à tout cela ? Nous l'avons dans l'évangile de ce jour. Au premier mirage, il répond que l'homme ne vit pas seulement de pain. Assurément, frère, au cœur d'une société du consommer toujours plus, à l'heure des lois sur l'allongement du travail qui touche même au repos dominical, combien grande est la tentation de limiter son attention aux nécessités matérielles de son existence, et combien actuelle la tentation de croire que les réalités matérielles sont la plus urgente des nécessités. Et voici que la parole de Dieu dans le Deutéronome nous présente un remède à ce mal. Offrir au Seigneur les prémices du produit de son sol, autrement dit, offrir les premiers fruits de son travail. N'est-ce pas le moyen d'empêcher notre univers matériel de s'enfermer sur lui-même et de nous y enfermer nous-mêmes avec ? Voyons le second mirage maintenant. À celui-ci, Dieu répond : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Assurément, frère, combien grande est la tentation pour l'homme d'utiliser sa capacité de puissance en un abus de pouvoir qui l'asservit et l'emprisonne. N'est-ce pas cela l'idolâtrie ? Celle qui étend ses ramifications dans tous les domaines de notre vie, idolâtrie à la fois subtile, discrète et puissante, qui habilement se pare de termes séduisants comme libération de tabous, liberté de comportement, attitude libre et responsable, et d'autres expressions aussi tonitruantes que trompeuses, dont finalement sont victimes les plus faibles, les petits, les sans défense, tel l'enfant en gestation dans le sein de sa mère ou le malade en fin de vie. Or, que dit la parole de Dieu à qui veut l'entendre ? Que la vraie maîtrise de soi et domination du monde ne se trouve que dans la reconnaissance en la souveraineté du Seigneur. Troisième mirage, enfin, auquel Dieu répond : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Oui, que dire encore de cette tentation de se soustraire à la volonté de Dieu pour pouvoir faire tout et n'importe quoi ? Alors l'homme crée des situations impossibles, organise des guerres, développe et tolère de multiples formes de violence qui engendrent tant de souffrances et de désordres dont les plus démunis sont de nouvelles victimes. Tandis que certains alors ont conclu que si Dieu existait, ça n'arriverait pas. D'autres s'érigent en conseillers de Dieu, lui dictant ce qu'il devrait faire. Idolâtrie du Dieu magicien, si loin du Dieu de la révélation, qui nous invite à notre responsabilité libre. Bien, concluons maintenant. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Ainsi s'ouvre notre carême depuis quelques jours. Cependant, frères et sœurs, avons-nous conscience comme chrétiens de suivre un Dieu qui s'est exposé à toute tentation? Et avons-nous conscience que si Dieu s'est exposé ainsi, ce n'est pas pour lui, bien sûr, mais seulement pour nous, et pour nous donner les moyens d'être forts avec lui contre l'adversaire qui sans cesse veut nous détourner de la vie, de la vérité et du chemin pour lequel nous sommes faits. Et nous le voyons encore, de la première page de la Bible jusqu'à l'Évangile, combien il est habile en citant l'Écriture dont il pervertit le sens. Devenir comme des dieux. Finalement, n'est-ce pas cela le combat? Le combat des origines, notre combat, celui de la vie et de toute la vie. Limiter sa fin aux choses terrestres, refuser à Dieu la souveraineté, se mettre hors de sa volonté pour vouloir devenir comme des dieux. Eh bien, voici, frères et sœurs, les affrontements que nous connaissons. Tel est le combat que Jésus a mené victorieusement pour nous et qu'il mène maintenant avec nous. Aussi aujourd'hui, Christ redit à chacun: si toutefois tu le veux victorieux avec moi, tu seras et expérimenteras comment le désert de la tentation peut se transformer en une libération. Bien que par l'intercession de la Vierge Marie, notre combat, frères et sœurs, et donc notre carême, soit l'occasion d'un renouvellement en profondeur de chacun dans sa relation à Dieu, de chacun dans sa relation aux autres, dans chacun dans sa relation aux choses et dans sa relation par rapport à lui-même. Amen.